en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Et c'est vendredi, c'est donc Cuisine dont on en parle avec vos invités, Antoine Drou, vos invités qui sont Jérôme Binder, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Et Kurt Ostetmann, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors au programme, jusqu'à 10h, Saint-Valentin oblige, la cuisine des amoureux et la cuisine aphrodisiaque. On verra notamment si c'est vraiment vrai, hein, si ça existe. Jérôme Binder, vous êtes le fondateur et le directeur de l'atelier culinaire Parfum d'épices à Crissier, dans le canton de Vaud. En quoi ça consiste l'atelier Saint-Valentin que vous organisez ce soir ?
Alors voilà, c'est vrai que c'est une petite alternative aux couples qui veulent aussi passer un bon moment ensemble, mais peut-être sortir du traditionnel repas en amoureux et restaurant et de partager un moment de convivialité ensemble avec d'autres couples aussi, puisqu'on va cuisiner, on sera un petit groupe de 14 personnes et on va cuisiner un joli menu gourmand pour la Saint-Valentin.
Quel est l'impact sur le couple de cuisiner à deux, parce que c'est pas le premier atelier Saint-Valentin que vous faites, Jérôme Binder. Comment, dans quel état d'esprit arrivent les couples, dans quel état d'esprit ils repartent après avoir cuisiné et dégusté les repas qu'ils ont préparé?
Alors, bah, c'est vrai que c'est souvent le plaisir de rencontrer aussi d'autres personnes, finalement, et puis que ce soit convivial et de se faire aussi des, pourquoi pas, des amis. C'est vrai que la cuisine rassemble beaucoup. Après, peut-être aussi le fait de cuisiner dans un endroit neutre, c'est peut-être aussi plus propice à éviter les tensions entre un couple et en tout cas de découvrir quelque chose de différent ensemble.
Kurt Ostetmann, alors vous n'êtes pas du tout cuisinier, vous êtes pharmacologue, professeur honoraire aux universités de Genève, de Lausanne, de Nanjing et de Shandong en Chine. Alors il y a déjà 25 ans, vous avez sorti un livre intitulé « Tout savoir sur les aphrodisiaques naturels » chez Favre. Alors il est malheureusement épuisé ce livre depuis longtemps, mais ça a été un immense succès, y compris pour les traductions. Vous en avez notamment vendu 50 000 exemplaires au Brésil. Ça existe donc pour de vrai, les aliments qui stimulent la sexualité des hommes et des femmes, c'est vrai ?
Ah oui, il y en a, mais quand on dit aphrodisiaque, si on parle de la définition, ça vient de Aphrodite, la déesse de l'amour dans la mythologie grecque, qui est devenue Vénus chez les Romains. Mais alors, quand on dit aphrodisiaque, c'est ça, disons, la définition d'aphrodisiaque doit stimuler le désir sexuel. Le désir sexuel, et c'est relativement vague, mais la plupart des gens, ils pensent tout de suite que c'est un produit qui doit avoir un effet immédiat, style Viagra ou Cialis ou Sildenafil, enfin de ce genre-là. Mais ça, c'est pas vrai. Il existe une ou deux plantes et une mouche espagnole, la cantharide, dont on a peut-être parlé tout à l'heure, qui donne un effet immédiat.
Mais ça, c'est prouvé scientifiquement.
Ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est même très dangereux. Ça peut même provoquer des crises de priapisme, c'est-à-dire une érection irréversible.
Il n'y a pas forcément de lien avec donc des substances qui favoriseraient l'érection ou ce genre de choses. Donc, c'est plus pour se mettre en jambe, si j'ose l'expression, faire naître le désir.
Oui, mais ça, c'est clair. Ça, c'est la définition. Mais très, très souvent, les gens pensent que ça doit agir. Il y a des substances qui agissent, il y a des vasodilatateurs qui permettent d'amener du sang dans les organes génitaux.
Oui, quand même juste alors, on va le dire d'entrée de jeu au début de l'émission, comme ça on va spoiler un petit peu, un aliment qui est testé scientifiquement et on est sûr que c'est un aphrodisiaque, par exemple.
Ah ben, la grenade, le jus de grenade, okay. Il y en a quelques autres, mais enfin, c'est peut-être mon préféré.
Ouais, si quelqu'un doit aller au boulot, comme ça il en a déjà.
Cette émission est interactive, hein. Vous pouvez nous appeler au 0800 108 208, nous laisser des messages au 076 206 12 12 ou nous écrire à onenparle@rts.ch. Mais en attendant Antoine Drou, on va faire le tour de quelques restaurateurs de Suisse romande qui proposent des menus Saint-Valentin. Ils sont assez nombreux dans la région.
Oui, de Soral à Perfit, de Saint-Léonard à Avanche, en passant par Plan-les-Ouates, Yverdon ou Bourguillon, il y a l'embarras du choix, que ce soit au niveau gustatif ou au niveau des prix. Je m'en suis rendu compte en surfant sur le site de nos confrères de Go & Mio. Les menus aussi entre entre 70 et 400 francs, hein, selon la taille de votre porte-monnaie et bien sûr la taille de votre amour.
Alors Antoine, quelles sont les tendances dans les assiettes ?
Côté entrée, les coquilles Saint-Jacques ont la cote. Nombreux sont les chefs à les associer à un repas en amoureux. Saint-Jacques avec purée de betterave et hibiscus ou avec confit de mandarine. Saint-Jacques au caviar et au champagne. Saint-Jacques au beurre des Alpes, au poivre, à la courge. La recette la plus originale étant peut-être Saint-Jacques rôti et écume de coco à la cardamome verte.
On continue le menu avec quoi ?
Du homard, ça vous va ? C'est vrai que quand on aime, on ne compte pas. Risotto ou homard bleu et son espuma de champagne, homard aux épinards et fèves de tonka, ou alors servi avec une mousseline de brochet.
Il est l'heure de passer au plat principal.
Ah, dites donc, vous êtes gourmand ce matin, Mathieu. Avec pas mal de bœuf dans les assiettes en Suisse romande ce soir, bœuf laqué, betterave, gingembre, nappé de sauce porto et cacao, ou servi avec une sauce yuzu. On ose même la tartelette de bœuf et caviar de Frutigen. Plus classique, bœuf au gamaret et truffes noires. Il y en a beaucoup des truffes d'ailleurs, des truffes noires dans les menus de Saint-Valentin ce soir. Elles accompagnent aussi par exemple un œuf croustillant, un suprême de pintade, un cappuccino d'artichaut. Il faut en profiter de cette mélanosporum. On est vraiment là sur la fin de la saison.
Le plaisir des sens, c'est aussi un peu de sucré, un petit dessert, Antoine ?
Chocolat, c'est la vedette incontestée de ces menus d'amour. Crème au chocolat, cœur au chocolat coco et thé vert, moelleux chocolat clémentine. Quoique, il y a quand même quelques fruits exotiques qui sont comme ça en embuscade. Dôme aux fruits de la passion, dessert pomme, litchi, géranium. De chouettes menus en perspective. Donc, mais veillez tout de même à ne pas trop alourdir votre estomac en fonction du programme que vous avez prévu pour le reste de la soirée.
Alors on est déjà en appétit Antoine, on va quand même s'intéresser particulièrement au menu de Jérôme Binder. On rappelle que vous êtes à notre table, vous êtes chef et directeur de l'atelier culinaire Parfum d'épices et ce soir à Crissier pour cet atelier culinaire spécial Saint-Valentin.
En entrée, blanc mangé de truite fumée de Chambly au poivre timout et son tartare aux pommes Granny Smith et grenade. C'est quoi Jérôme Binder, un blanc mangé de truite ?
Alors, c'est une sorte de panna cotta, donc de crème gélifiée à la gélatine. Et là, on va aller infuser en fait la truite fumée dans ce lait, auquel on va rajouter après une crème montée, il y a aromatisé de moutarde et puis de poivre timout. On va aussi donc infuser la crème avec ce poivre qui va donner des petites saveurs de pamplemousse, puisque c'est un poivre de la famille des Sichuan.
Oui, on l'a ici sous les yeux, c'est celui-ci, je crois. On va pouvoir le sentir, si vous voulez le sentir, je vous le donne volontiers, Mathieu. Et puis donc à côté, avec ce blanc mangé, un tartare aux pommes Granny Smith et grenade. Donc les pommes sont émincées en tout petits cubes, c'est bien ça ?
Exactement, toute petite brunoise. On va rajouter un petit peu de truite fumée aussi dedans. Et puis la grenade pour le côté croquant, fraîcheur. Et puis effectivement, alors je savais pas que c'était le top one des ingrédients, mais je savais que ça avait des propriétés aphrodisiaques. Mais je suis content de savoir que c'est le top one. Et c'est vrai que la grenade, c'est quelque chose d'assez chouette en cuisine, parce que ça amène quelque chose de différent dans la bouche, quoi. Il se passe quelque chose quand on croque dedans.
Alors ça, c'est la recette du cuisinier. Je me tourne vers le pharmacologue Kurt Ostetmann. Si on devait donner une note de 1 à 10 à cette recette de niveau d'effet aphrodisiaque, vous situez ça où ?
Oh, disons, je mettrais un 5 à 6. Ah. Bon, le poivre, bon, il a un certain effet. Il est tonique contre la fatigue, le poivre de timut. Enfin, il a un goût de pamplemousse un peu. C'est assez particulier.
C'est peut-être
aussi l'odeur qui stimule les sens. C'est olfactif, enfin, ça peut être assez important. Et puis évidemment, enfin, la grenade. Mais il est clair que s'il n'y a que 3-4 grains de grenade, ça n'aura pas d'effet. Les études qui ont été faites sur la grenade, c'est des gens qui prenaient 2 décis de jus de grenade. C'est pas facile à presser, il faut une presse spéciale pour le faire. Et là, ça augmente, alors en une semaine, ça de 30% de taux de testostérone. Et quand le taux de testostérone augmente, on a plus envie de faire l'amour, ça augmente la libido. Et en même temps, ça augmente aussi la spermatogénèse. Donc le volume d'éjaculation sera plus grand, donc un besoin d'éjaculer plus fréquent. Donc la grenade, c'est vraiment le produit, un bon produit.
Vous avez peut-être une botte secrète pour ne pas boire autant de jus de grenade. Vous avez dit quoi, 2 décis par jour pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est ça?
Pour atteindre un taux beaucoup plus élevé de testostérone.
Okay. Oui, parce que Jérôme Binder, vous avez pris une mélasse de grenade. C'est quoi exactement ce petit flacon? Alors, je vais goûter en même temps que je vous écoute.
C'est un petit peu le vin cuit oriental.
On va pouvoir continuer l'émission.
Le vin cuit oriental.
Oui, puisque c'est du jus de grenade qui est cuit et donc concentré.
Ah, c'est concentré. Ouais,
et c'est super intéressant gustativement puisqu'on a de l'acidité et puis du sucre en même temps. Et donc, on va pouvoir rajouter ça un petit peu en topping aussi sur la panna cotta. Et c'est quelque chose que les orientaux utilisent beaucoup. Pardon. Dans leur cuisine, ils en mettent dans les kaftas, notamment bœuf agneau. On met de la mélasse de grenade dans la salade fatouche. Voilà, c'est quelque chose qui est utilisé largement en Orient, mais qui est peu connu, que j'utilise depuis un certain nombre d'années et qui est devenu assez connu maintenant avec Ottolenghi qui amène un petit peu ses condiments ici dans notre cuisine.
Vous connaissiez ça, Kurt Stettmann?
Non, je ne connaissais pas.
Bah, je vais vous faire goûter pendant le disque. Et puis on continuera de parler de ce menu de Saint-Valentin de ce soir chez Parfums d'Épices à Crécy. Après un peu de musique, c'est ça, Mathieu?
Le guichet dont on en parle, 0800 108 208.
La cuisine des amoureux, la cuisine aphrodisiaque aussi au menu dont on parle aujourd'hui avec Jérôme Binder, fondateur de Parfums d'Épices à Crécy et Kurt Stettmann, pardon, pharmacologue. Ben, peut-être cette petite question, si je puis me permettre, avant de revenir à votre menu qu'on n'avait pas fini de dérouler, Jérôme Binder. On entendait cette chanson, on a pas mal bu, Ava Gardner, Frank Sinatra, avant de se rendre dans le désert. Quel est l'effet de l'alcool sur la libido, Kurt Stettmann, peut-être?
Il n'est pas bon. C'est juste clair et net, plus on boit d'alcool, plus la libido va baisser.
Même du champagne?
Bah, non, une ou deux flûtes de champagne, ça va longtemps, ça c'est que ça. Ah bah, oui. Mais trop de champagne, c'est pas bon.
C'est pas bon.
Antoine.
On continue donc ce menu que vous allez concocter, que les couples qui participent à votre atelier Saint-Valentin ce soir à Crécy vont concocter, à Jérôme Binder. Le plat principal, c'est Wellington de cerf de Tiéran en croûte de pistache, sauce hippocrasse à la mûre, carottes fan en 2 textures et chips de fan. Alors on passe vite sur les carottes parce que c'est pas là que se situe le côté aphrodisiaque de la chose. Moi j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette sauce hippocrasse. Qu'est-ce qu'il y a à la mûre? Il y a quoi dedans comme base d'épices?
Alors dans cette sauce on va mettre de la cardamome, du girofle et du massi. Le massi en fait c'est la fleur, on appelle ça fleur de muscade, c'est ce qui entoure la noix de muscade. C'est une petite peau rouge orange comme ça qui est séchée et qui est utilisée beaucoup en Asie, en Inde, mais même en Suisse, puisque les bouchers mettent du massi dans la saucisse au chou.
Ah, d'accord.
Finalement, voilà. On ne sait pas comment c'est arrivé chez nous, dans la saucisse au chou, mais sachez qu'il y en a. Et donc, c'est vrai que c'est un peu plus puissant que la muscade, il y a un côté un peu piquant comme ça. Et c'est très intéressant.
C'est
en
amer.
Alors,
j'en ai croqué un bout là.
Oui, oui.
Alors, j'y suis allé vraiment à la hussarde. Waouh, ça dépote, hein, ouais. Ça dégage. Hein.
Alors, il faut l'infuser en fait. Ah. On ne va pas forcément la.
Il ne faut pas la croquer, non.
La croquer comme ça ou la mixer. Effectivement, nous, ce qu'on fait, on l'infuse. En fait, la sauce hippocrate, c'est une sorte de vin doux, un vin rouge qu'on va cuire avec les épices et du miel. Donc ça vient vraiment du Moyen-Âge, c'était une boisson qui était utilisée au Moyen-Âge, qui vient apparemment d'Hippocrate, qui aurait inventé cette boisson. Et donc on va venir infuser ces épices, et puis après rajouter de la mûre, voilà, pour donner le côté un petit peu fruit rouge, qui est très sympa sur cette sauce-là, qui va bien aller avec la saveur de la chasse.
Kurt Stettmann, l'avis du pharmacologue sur cette sauce hippocrate, massi, girofle et cardamome.
Ah, c'est une excellente combinaison, tout simplement parce que le massi, à dose un peu élevée, c'est même un euphorisant. Ça amène une sorte d'euphorie même. Alors ça c'est bien. Ça favorise la digestion en même temps. Et puis la girofle, tout girofle, vous savez, c'est un anesthésiant. Quand on a des maux de dents, on croque ça, puis ça passe, mais c'est pas pour ça que c'est utilisé. Ça stimule la libido. On dit ça depuis l'Antiquité, mais il n'y a pas beaucoup de preuves. Mais tout de même, récemment, on a montré que ça améliore la circulation sanguine. C'est une sorte de vasodilatation. Donc, ça peut favoriser l'apport du sang dans les organes génitaux.
Chez les femmes aussi, parce que
chez les femmes aussi, oui.
Il y a une auditrice qui nous a écrit par WhatsApp. Elle dit, vous parlez de grenades qui augmentent la testostérone. Chouette, ça augmente la libido masculine, souligne-t-elle. Mais qu'en est-il pour les femmes? Est-ce que typiquement la grenade a aussi un impact sur la libido des femmes?
Oui, parce qu'elle va augmenter. Bon, la testostérone est fabriquée chez l'homme dans les testicules, mais chez la femme, enfin, il y a aussi, on peut aussi, la femme aussi la testostérone, ça augmente aussi la libido de la femme, légèrement moins que chez l'homme. Et le jus de grenade, c'est surtout bon pour les femmes en période de préménopause, parce que ça prévient le cancer du sein. Donc, il est préconisé aux femmes de prendre du jus de grenade. Il y a des études très, très sérieuses qui ont été faites à ce sujet-là.
Et quand les tissus des organes génitaux sont stimulés, il y a un afflux de sang, ben là, ça stimule autant chez l'homme que chez la femme.
Exactement.
C'est une question que je vous pose.
L'érection chez l'homme et puis l'érection du clitoris, un afflux de sang dans les lèvres inférieures, enfin ça c'est clair.
La pistache, en croûte de pistache, donc ça j'imagine, Jérôme Binder, que le filet de serre, il est rôti comme d'habitude, et puis enrobé de pistache hachée,
alors, quelque chose du genre. Oui, on va torréfier les pistaches pour avoir vraiment les bonnes saveurs, on va faire un beurre pommade, on va intégrer les pistaches torréfiées dans le beurre tomate, fleur de sel, et on va répartir ça sur la pâte feuilletée, puis après enrouler effectivement le filet de serre rôti. Ouais. Dans la pâte feuilletée, et donc ça va amener du croquant, et puis ouais, ce goût un petit peu torréfié, très, très sympa avec le cerf.
La pistache, Kurt Stettmann ?
Alors, c'est pas très aphrodisiaque.
Non.
Non, à mon avis, non.
Bon, ben, en tout cas, c'est
bon. Par contre, la cardamome que vous mettez dedans, ou bien dans l'hypocrase.
Ouais. Dans la sauce d'hypocrase, oui, il y a cardamome. Ouais, massif, girofle, cardamome.
Ça, c'est vraiment un stimulant.
Cardamome.
Ouais, connu de la médecine ayurvédique indienne déjà. Ça, c'est considéré comme un aphrodisiaque, un bon aphrodisiaque, une épice aphrodisiaque assez remarquable.
Ouais, vous avez pas mal. La même note que tout à l'heure de 1 à 10.
Non, je montrais nettement plus, là.
Ah, bon, plus que.
Ah, oui. Non, donc ça, c'est déjà mieux à cause de cette hypocrase. Enfin, ça, c'est magnifique.
Magnifique. Bon, 8 ?
Oui, 8, oui, oui.
8, ok, d'accord. Ah, oui. Encore un petit cru pour le dessert, Mathieu ?
On y va.
Ok. Fondant chocolat, grand cru Ariba et Tonka, sorbet passion Sichuan et tuiles au gruet de cacao. Vous en avez amené le chocolat, je vais peut-être prendre ça après le massif pour un peu calmer.
Aussi, hein.
Chocolat 75%, juste en parenthèse, 75%, ça va très bien pour les desserts. Faut pas prendre plus, hein. On se dit
c'est
parfois...
Il est 72 celui-là. Mais...
72, on se dit parfois, il faut plus il y a de pourcents de cacao, mieux c'est pour les desserts, mais pas forcément.
Non, après, c'est vrai qu'au-delà de 75%, ça va venir très amer. Surtout que dans ce dessert, il y a très peu de sucre. Mmh. L'idée, c'est vraiment d'amener la profondeur du chocolat. Et c'est vrai que c'est un magnifique chocolat. C'est un grand cru Ariba d'Équateur qui va amener aussi un peu d'acidité, un petit peu ce côté fumé. Et voilà, c'est assez intéressant sur un fondant chocolat.
Votre truc pour le fondant au chocolat, pour qu'il soit ferme à l'extérieur et qu'il se coule quand on l'ouvre avec la cuillère?
Oui. Alors, il faut connaître son four déjà, parce que voilà, chaque four a un petit peu sa puissance propre. Après, l'idée, c'est d'avoir un appareil qui soit pas trop froid non plus, parce que voilà, si vous avez très froid et puis vous le mettez au four, bah, 1 minute ou 2 minutes de plus vont faire la différence. Donc voilà, plutôt à température ambiante, l'appareil avant de le mettre au four. Et puis, une cuisson assez forte, 240 degrés, à peu près 8 minutes. Il faut que ça croûte. Il faut vraiment voir la petite croûte se former dessus, mais qu'elle se forme juste un petit peu. Et puis après, voilà, s'il y a besoin un petit coup encore à 250 quelques secondes et le sortir immédiatement. Et puis, c'est toujours un petit peu la difficulté, c'est de le démouler sans le casser. Ça demande un peu de doigté.
Alors, Jérôme Binder, moi, je vous écoute avec attention. J'ai déjà appris beaucoup de choses depuis le début de cette émission. Est-ce que la cuisine des amoureux, la cuisine aphrodisiaque, c'est, on a compris la vertu pharmacologique de certains de ces produits. Est-ce que ça passe aussi par des couleurs, par des sensations, par autre chose que finalement ces choses qui sont démontrées par la science ?
Alors oui, bien sûr, hein, ben on mange aussi avec les yeux. Je pense que voilà, la première chose quand on reçoit l'assiette devant soi, c'est de donner envie avec des couleurs. Là aussi, la petite touche de la mûre dans la sauce, un côté un peu rouge. Puis le fondant chocolat, voilà, on est aussi sur quelque chose qui va couler, qui est chaud, qui est suave. Donc c'est aussi les sensations qu'on va avoir dans la bouche, même dans la cuillère quand on va couper son fondant. Donc c'est une expérience totale.
Ouais, il faut se mettre dans l'ambiance.
Les cinq sens.
Ouais, c'est
exactement.
Kurt Stettmann, le dessert. Alors fondant chocolat, tonka, Sorbet passion Sichuan, j'imagine qu'il y a une petite touche de poivre de Sichuan dans le sorbet, c'est ça?
Voilà, c'est pour un petit peu un effet qui se coule. Hein. Le poivre Sichuan, c'est ce côté un petit peu acide comme ça qui va faire saliver. Après, c'est léger, mais ça va bien avec le sorbet passion, puisque le Sichuan, ça fait partie des poivres, c'est un arbuste de la famille des agrumes en fait. Donc ça va bien avec la passion.
D'où ce petit goût de pamplemousse. Ouais. Et puis on rajoute un peu ce gruet de cacao. Alors là aussi, votre commentaire, le commentaire du pharmacologue.
Oui, tout d'abord, le poivre de Sichuan, il est apparenté au poivre de Timut, c'est de cousins même. C'est des faux poivres, parce que on les appelle poivres, mais ce n'est pas des vrais poivres. Enfin, et c'est intéressant, et là il a un effet aphrodisiaque qui est reconnu. Le cacao, c'est connu depuis très très longtemps, c'est vraiment un bon aphrodisiaque. Disait qu'il faut beaucoup de cacao. La tonka en petite dose, ça va, mais la tonka en dose plus élevée, c'est pas très sain, ça pourrait avoir un effet mauvais pour le foie, mais je sais que vous en mettez extrêmement peu, mais là, c'est un produit qui peut être assez dangereux. Quand
Antoine,
on en mange beaucoup.
Antoine, vous grignotez.
C'est le poivre du Sichuan, justement, qui a ce goût très, très agrume, très, très pamplemousse. Si vous ne voulez pas faire comme moi, puis croquer directement le vin, vous les sentir, ils sont déjà un peu
concassés. C'est le truc que vous avez mangé tout à l'heure quand vous êtes devenu tout rouge.
Non, celui-là, il faut que vous le mangez. C'est le massif que j'ai goûté en croquant dedans.
Le poivre de Sichuan, ça va très, très bien avec le foie gras aussi. Il y a des gens qui vendent en France du foie gras où il y a du poivre de Sichuan. C'est absolument délicieux.
Il faudra essayer ça une fois. Bonne idée, très bonne idée. Merci. Merci pour ça. 0800 108 208, hein, oui. on peut nous joindre, on peut nous appeler,
poser des questions, mais aussi partager des anecdotes,
ou des recettes
aphrodisiaques, ou des idées, on en a abordé plein, mais il y en a peut-être d'autres. Ouais, 0800 108 208 pour nous appeler, 076 206 1212, alors là, vous pouvez nous laisser un petit message vocal, vous enregistrez notre numéro sur votre téléphone portable, vous appuyez sur le petit micro, vous enregistrez un petit message, vous l'envoyez, on en parle, et puis nous, on le diffuse dans les minutes qui suivent. Sinon, on en parle à rts.ch, si vous préférez nous écrire.
On a parlé tout à l'heure, enfin j'ai décrit un peu les grandes tendances hein, de ces menus de Saint-Valentin qui sont servis ce soir dans toute la Suisse romande, dans tous les restaurants. Kurt Stettmann, je soulignais le fait qu'il y avait beaucoup de restaurateurs qui proposaient des coquilles Saint-Jacques en entrée. Quelle est votre vision de spécialiste? Je rappelle que vous avez écrit, pour celles et ceux qui nous prennent en vol, hein, vous avez écrit il y a très longtemps un ouvrage sur la cuisine aphrodisiaque. La Saint-Jacques, est-ce que c'est un mets aphrodisiaque?
Oui.
Ah.
Oui.
Pourquoi?
Pourquoi? Tout simplement parce que certains produits de la mer, comme les huîtres, la Saint-Jacques, ça possède du zinc.
Oui.
ZN, enfin.
Oui, je vois bien. Enfin, oui,
j'allais. Non. Et ça, c'est extrêmement important pour la spermatogenèse, pour la formation des spermatozoïdes. Et ça augmente aussi légèrement le taux de testostérone. Donc, la Saint-Jacques, vous avez cité tout à l'heure, il y avait beaucoup de menus avec la Saint-Jacques dedans. Ça, c'est très, très bon.
Le homard, le caviar?
Le homard, moins, beaucoup moins.
Le caviar, ça a peut-être un effet, parce que quand on se dit, s'il m'offre du caviar.
Non,
il a les moyens. Ou elle a les moyens.
Oui. Ça, c'est bon.
Mais ça marche pas. C'est pas aphrodisiaque, homard.
Légèrement. Caviar. Très, très légèrement, mais il n'y a pas d'études qui ont été faites.
Viande rouge.
La viande rouge, ça va bien. Mais il faudrait mettre avec une autre plante qu'on oublie souvent, une épice. C'est la sarriette des montagnes.
Sarriette des montagnes.
La sarriette, il y a deux sarriettes. La sarriette des jardins.
Ouais.
Bonnenkraut.
On les met dans les haricots, la sarriette.
Mais la sarriette des montagnes.
C'est pas la même.
C'est pas la même. C'est complètement différent. Et la sarriette des montagnes, elle est connue pour être un excellent aphrodisiaque. Elle était interdite aux moines de la cultiver dans le jardin des monastères. Ils pouvaient plus respecter leurs vœux de chasteté. C'est même la peine de mort passée à moine cultiver ça.
Donc une viande rouge avec une petite sauce sarriette, cardamome, avec de la grenade, des coquilles Saint-Jacques avec de la grenade, ça pourrait marcher, Jérôme Binder, en entrée
Oui, pourquoi pas, tout à fait. Après, voilà, la coquille Saint-Jacques, c'est vrai que ça s'apprête avec beaucoup de choses. Moi, j'aime bien la varier avec un petit peu de terre-mer, mettre un petit peu soit de chorizo ou de lard, comme ça, pour avoir ce côté salin.
Céleri, truffe.
Oui, alors la truffe, c'est un aphrodisiaque pour la femme.
Okay.
Briard Savarin a écrit un livre enfin, sur le goût.
Grand cuisinier.
Grand cuisinier, enfin, très célèbre. Il a écrit « La truffe rend les femmes ardentes ».
Ok.
Et c'est prouvé scientifiquement.
Ça marche, ok.
Ça marche pour les femmes. Pas pour toutes les femmes, mais ça marche. Et des femmes, enfin, elles reniflent l'odeur de la truffe. J'ai toute une histoire sur la truffe. Je ne sais pas si on a le temps
Je sais pas, je me tourne vers Mathieu. On a le temps ou pas?
Oui, il est 9h35.
Allons-y. Donc, truffe noire, la mélanosporum, celle qui a le plus de goût.
Quelle que soit la truffe, ou la truffe de Bourgogne ou la truffe blanche, c'est égal. Autrefois, on utilisait des cochons pour chercher la truffe.
Oui.
Et pas n'importe quel cochon. Que la truie. La truie est capable de trouver la truffe. Et du chercheur allemand, il y a 40 ans en arrière, à peu près, une bonne quarantaine d'années en arrière, ils ont étudié la truffe, ils ont vu qu'il y avait une phéromone sexuelle, un dérivé volatile de la testostérone qui s'appelle androsténol. Androsténol, qu'on trouve dans la truffe. Et puis ils voulaient savoir pourquoi on utilise des truies pour la chercher. Ils ont trouvé que lorsque le cochon mâle est en état d'excitation sexuelle, ses testicules produisent la même molécule qu'on trouve dans la truffe, qui est dans la bave du cochon, enfin, comme ça. Alors, une femme m'a dit, je mangerai plus jamais de truffe après ça. C'est pour ça que la truffe, c'est un phéromone sexuel qui excite certaines femmes.
Et puis, il paraît qu'avec le céleri, c'est parfait. Mélanger avec du céleri.
Oui,
c'est
une autre histoire encore. Les mêmes Allemands, ils ont cherché où est-ce qu'on trouvait des phéromones sexuelles. Ils ont trouvé que dans le panais et le céleri, il y avait l'androsténone. C'est très proche. Il y a juste un groupe alcool, un autre groupe cétone. Ils ont trouvé qu'il y avait l'androsténone dans le céleri, dans le panais. Et ils ont trouvé que l'homme excité, nous, quand on est excité sexuellement, on bave pas comme les cochons, enfin, quand on fait l'amour, en principe, hein. Mais on transpire. Et la transpiration axillaire, elle contient la phéromone que l'on trouve dans le céleri. Donc, il est recommandé aux femmes de pas trop laver, de mettre le nez là-dessus. Ceci va provoquer une sorte d'excitation.
Bon, alors, attendez, juste avant la musique, parce que je vous vois perfil d'impatience, Mathieu, mais juste avant la musique, une petite recette de purée de céleri aux truffes avec Jérôme Binder. Comme ça, il y en a pour monsieur et madame.
Alors oui, tout simplement une purée de céleri. On va cuire le céleri avec un petit peu de bouillon. Et puis après, on va le mixer. On va rajouter un petit peu de beurre. Et puis, moi, j'aime bien rajouter une petite touche de chocolat blanc dedans. Ça donne le côté un peu crémeux. Ça reste léger. Et on va rajouter l'huile de truffe. Truffe blanche. Alors, on sait que l'huile de truffe blanche, c'est de l'arôme. Hein. Ouais. Mais c'est ce qui va permettre vraiment de ressentir le goût de la truffe.
Ah, tout à coup, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit.
Non, j'ai une objection très grande.
Objection, votre honneur.
J'ai une objection. Les phéromones sont des produits volatiles. Donc, le céleri marche que lorsqu'on le mange cru.
Ah.
Si vous faites une purée, il y aura d'autres molécules du céleri, mais il n'y aura plus l'effet aphrodisiaque.
Voilà.
C'est la même chose avec la truffe. La truffe, enfin, pour qu'elle ait son effet aphrodisiaque, il ne faut évidemment pas la cuire, juste la couper. Bon. Et le céleri, il faut bien le dire, c'est le céleri en salade, le céleri cru qui marche seulement.
Salade Waldorf aux truffes.
Par exemple, voilà.
Magnifique. Donc c'est la région julienne avec un peu
exact.
De mayonnaise.
Ça, c'est une bonne idée.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
La cuisine des amoureux, la cuisine aphrodisiaque aussi, au menu dont on parle aujourd'hui, avec un cuisinier, Jérôme Binder, patron de Parfum d'épices à Crissier, et avec un pharmacologue, Kurt Ostetmann, professeur honoraire aussi aux universités de Genève, de Lausanne, de Nanjing et de Shandong en Chine. Une voix que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendue à la radio, puisque Kurt, vous faites de la radio depuis plus longtemps que nous, sauf erreur, vous étiez de l'émission de Christine Magro à l'époque.
Oui. Voilà. 250 passages ou 250.
C'est plus que
passages.
Moi.
Ah, Monsieur Jardinier.
Ouais, c'est quand même incroyable. Hein. Vous avez commencé de faire de la radio avec Christine Magro dans Monsieur Jardinier. Il y a 40 ans, vous nous disiez.
Non. Pas 40 ans, mais j'étais au Dromadaire sur l'épaule ou d'autres émissions qu'il y avait ici à la première.
Bon, bah, c'est parfait. On est ravis de vous accueillir à nouveau. Et à 80 ans, vous tenez encore la forme.
Oh, bah, oui.
Bon, bah, oui, visiblement, puisque vous êtes là en direct avec plein de produits. Je pense qu'on n'arrivera pas à parler de tout jusqu'à 10 heures, Mathieu. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on a plein de choses à dire. D'ailleurs, Kurt Ostetmann, vous êtes tellement en forme que vous allez sortir le 4 mars un nouveau livre sur la fatigue. Il y aura même un chapitre, enfin il y a dans ce livre un chapitre sur la fatigue sexuelle. Vous y détaillez de nombreux aliments qui peuvent contrer cette fatigue sexuelle. C'est bien ça?
Oui. C'est vraiment pas pour les amoureux qui vont prendre un menu de Saint-Valentin, mais c'est vraiment les gens qui sont flasques, enfin qui ont des problèmes sur tous les côtés, ou le manque de libido aussi chez la femme pour différentes raisons, le stress, le monde anxiogène dans lequel on vit, et disons là j'ai mis un chapitre sur la fatigue sexuelle, mais il est clair que le livre c'est avant tout sur la fatigue passagère. Et puis ensuite, sur la fatigue chronique. La fatigue chronique est une nouvelle pathologie, c'est une nouvelle maladie maintenant. Il y a des gens qui dorment, mais ils sont quand même fatigués. Et là, il y a des plantes, enfin beaucoup de plantes. C'est un livre à découvrir.
C'est un livre qui sort le 4 mars aux éditions Favre. Il s'appelle « La fatigue, un mal universel et des plantes comme alliés naturels ». Alors ce que je vous propose, Kurt Ostetmann et Jérôme Binder, c'est de nous plonger un peu dans ce chapitre qu'il y a dans ce livre qui est consacré à la fatigue sexuelle. J'ai sélectionné quelques-uns des aliments que vous décrivez. Kurt Ostetmann, vous nous dites un petit mot sur chacun de ces aliments. Et puis Jérôme Binder, une petite recette. On l'a fait un peu comme ça, en improvisé. Ça vous va? Bon, alors on y va.
Essayer.
Gingembre, Kurt Ostetmann.
Oui, bon, le gingembre, c'est une épice chinoise qui a été rapportée au XIIIe siècle par Marco Polo. Et c'est extrêmement important, le gingembre. D'abord, le goût est agréable. Et c'est pas seulement pour la libido, le gingembre. Le gingembre, par exemple, ça permet de ne pas vomir.
Okay, c'est un antivomitif.
C'est un antivomitif. Et les femmes, enfin, qui sont enceintes, qui ont des nausées, ça permet les maux de voyage aussi. Il y a beaucoup de choses. La digestion, le foie. Et puis, en Chine, quand il y avait l'épidémie de grippe H1N1, on préconisait simplement de faire des infusions de gingembre. Maintenant, propriété aphrodisiaque, c'est un assez bon vasodilatateur. Donc, ça peut amener, quand on le prend, du sang plus facilement dans les organes génitaux.
Oui, j'ai lu dans le chapitre là que le gingembre frais est préconisé avant tout en usage externe. C'est-à-dire qu'il faut frotter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire avec du gingembre. Moi, je fais pas ça.
Hein. Non, le gingembre.
Je sais pas vous, hein. Mais...
Non, le gingembre. Non, il faut le mâcher. Les deux partenaires peuvent le mâcher. Ça donne pas mal de salive, on enlève les morceaux de gingembre de la bouche, et puis, ma foi, on peut peut-être faire des massages avec la salive, je dirais pas plus, enfin. Surtout, j'ai pas envie d'être éconduit du studio.
Jérôme Binder, vous rigolez.
Non, mais on s'éloigne un peu de la cuisine, là, mais.
Bon, bah, revenons à la cuisine, alors, Jérôme Binder. Un plat avec du gingembre, une recette avec du gingembre.
Je tiens juste à préciser, c'est vrai que le gingembre, faut l'utiliser frais en cuisine, hein. Ça n'a rien à voir avec le gingembre séché, qui n'a pas toute cette saveur fraîche, citronnée. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, moi, il y a un plat que j'aime bien, qui est assez simple à faire, c'est un tartare de filet de perche, au yuzu, gingembre et gomasio. Donc un côté un petit peu asiatique, comme ça on va mettre beaucoup de gingembre frais dans ce tartare qui va donner un peu de fraîcheur, un peu de ciboulette. Et puis ce jus de yuzu qui va amener un petit peu d'acidité. Hein, c'est un agrume qui a une saveur un petit peu de clémentine, comme ça. Et puis le gomasio, c'est un mélange de sésame avec fleur de sel, piment. Là aussi un côté sympa qui va rehausser le plat.
Bon, magnifique. On a aussi la grenade dans ce chapitre. Bon, on en a beaucoup parlé.
Oui.
Je vous propose de passer à la plante suivante, le maca. C'est la même famille que le chou, c'est ça?
Non. Ou...
Non?
Non, c'est la même famille.
Brassica,
ah, oui,
c'est
un... Oui, oui, bien sûr. Brassica, c'est le chou.
Ouais, c'est
mais,
ça.
Mais c'est le radis, enfin, le chou.
Ah.
Enfin, beaucoup... c'est proche, c'est la forme de radis, d'ailleurs.
Vous en avez amené, là, c'est ces petites gélules, hein, c'est ça?
Oui, c'est un gélule, mais la forme, c'est exactement comme...
Ouais.
Comme
on voit sur la boîte, là. Et ça, c'est aphrodisiaque,
C'est un très, très bon aphrodisiaque qui est le connu maca. Depuis les Incas. C'est les Incas qui l'ont utilisé. Et c'est les Espagnols qui l'ont ramené après ici. Les Incas l'utilisaient même pour les animaux. Ils donnaient ça aux animaux à manger pour la reproduction plus rapide. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Ça augmente la spermatogenèse. Et ça, pour les femmes aussi, ça marche. Ça marche. Ouais, pas la spermatogenèse, mais c'est un aphrodisiaque pour l'homme et la femme, enfin, un classique. Enfin.
C'est le ginseng du Pérou, hein, c'est ça?
On l'appelle le ginseng du Pérou. Ouais. C'est contre la fatigue aussi, c'est une plante remarquable.
Le goût, il est un peu caramélisé comme ça.
Oui.
Ouais, ça vous trouvez pas, Jérôme Binder? On est en train de goûter, on a ouvert une des gélules, on goûte la poudre là.
Alors c'est vrai que je connais comme complément alimentaire, mais je l'avais jamais goûté comme ça pur. C'est assez intéressant. Après, ça reste un complément. C'est vrai que quand on parle cuisine, pour moi, la cuisine, c'est avant tout le côté plaisir et les vrais aliments. Donc là, c'est un peu plus compliqué, à mon avis, d'intégrer ça comme ça. Mais
oui, il y a un deuxième effet de goût là qui devient très amer derrière, effectivement.
Après, il y a classique, le maca, c'est maca et chocolat. Les deux choses vont bien ensemble. Alors, je verrais plutôt ça pour des energy balls ou des petites boules base de chocolat, de gruée, de fruits secs. Et on pourrait rajouter un peu de maca pour avoir pas mal d'énergie. Mais après, à réfléchir si on pourrait développer quelque chose d'un peu plus complexe avec le maca.
On a un message qui nous vient de Noël. Noël au féminin dans le Val d'Almivier. Petite parenthèse dans cette liste. Il est écrit sur la bouteille de Génépi dans le Val d'Almivier. Le Génépi fait du bien à madame quand monsieur le boit. Alors évidemment, grand sourire de la part de Course-Tête Ostetman. Vous connaissez bien le Valais, hein, évidemment.
Ah oui, vous
habitez en Valais.
Je connais bien ce Génépi.
Aussi, aphrodisiaque le Génépi pour monsieur plutôt.
Non, il est pas
c'est de l'alcool. On disait tout à l'heure que l'alcool,
puis,
c'est quand même...
Et puis celui-là, du Val d'Anivier, il titre 54 degrés. C'est pas tellement aphrodisiaque.
Il assomme, plutôt.
C'est pour ça que madame est contente.
C'est plutôt...
C'était pour ça que madame est contente.
Parce
que monsieur dort.
Non, j'ai fait une recherche sur le Génépi quand j'ai écrit mon livre sur les... Disons, j'ai pas trouvé de preuves scientifiques, ça marchait. Mais il est clair, sur l'étiquette, c'est marqué « Le Génépi fait du bien, madame, comme monsieur le boit. » C'est un beau slogan, puis c'est bien, c'est typiquement valaisan, surtout c'est bien.
Magnifique. On a aussi parlé déjà de la sarriette des montagnes. Comme le temps avance, on a aussi parlé de truffes et céleri. Comme le temps avance, moi je voulais quand même que vous nous disiez un mot sur le chilagite, S-H-I-L-A-J-I-T, chilagite. C'est un ingrédient important de la médecine ayurvédique indienne. Ai-je lu dans votre livre, Kurt Ostetman. C'est quoi exactement cette espèce de mélasse épaisse, noire, on dirait presque du pétrole?
C'est du goudron, pratiquement. C'est comme, c'est comme du goudron. Eh bien, c'est un produit qui coule, qui sort de l'Himalaya.
Des rochers.
De cavités, des rochers. C'est un mélange de minéraux, c'est un mélange de plantes qui sont là. C'est une substance à la fois végétale et minérale. Et puis, il y a déjà cité dans des textes qui datent de 3000 ans, remède pour équilibrer le corps et l'esprit en médecine chinoise.
Oula, attention, je viens de goûter, Jérôme, faites attention parce que c'est...
Ouf. Alors, ce produit, c'est vraiment un produit à la mode maintenant. Il y a des publicités sur Internet, TikTok par exemple, enfin, il y a partout, vous mettez chilagite, vous trouvez du chilagite, n'importe. Ça augmente le taux de testostérone très très...
Ouais, faut vraiment vouloir alors.
Non, ça augmente, je connais des gens qui font de la musculation, ils prennent ce produit-là, il contient beaucoup de choses intéressantes, des protéines,
des... Prendre du chocolat parce que c'est... Ouais.
Vous allez pouvoir terminer l'émission, Antoine.
Ouais.
Bon, ça va.
Le seul problème, il y a tellement de produits qui sont pas très très bons, qui contiennent des métaux lourds. Alors, il faut acheter des produits qui sont purifiés et faire attention de ne pas acheter des produits bon marché qui contiennent des métaux lourds. Il y a eu des intoxications. Il y a du plomb, on peut trouver n'importe quoi comme métaux lourds. C'est un peu embêtant. Et puis, la publicité est très, très grande. Il y a une firme suisse, par exemple, qui vend maintenant des gélules qui sont purifiées. Il faut prendre du silagite purifié. Disons, ça c'est vraiment un produit qui marche, qui a beaucoup de succès. Mais aussi exagéré par la presse souvent, enfin l'effet, on dit que ça marche immédiatement, enfin pour les gens qui ont des problèmes d'érection, mais je ne sais pas. Disons, la prudence s'impose, en tout cas pour les jeunes qui en prennent, les sportifs, faites attention, prenez un silagite qui est purifié, sinon vous aurez des risques d'avoir des intoxications éventuelles aux métaux lourds.
Oui, bon, bah effectivement, on va suivre votre conseil, évidemment, Kurt Ostetmann. Votre, moi, je saurais pas comment utiliser ça en cuisine, Jérôme Binder. C'est un goût quand même très fort, c'est âcre.
Ouais, c'est un petit peu comme du charbon, enfin vraiment, c'est un peu brûlé.
Ouais.
Après, à toute petite dose, peut-être. Effectivement, dans une sauce pour amener ce côté un peu fumé. Mais je ne sais pas comment ça agit à la cuisson ou comment ça agit quand on dilue à quelque chose. Je connaissais ça de nom, mais c'est la première fois que je le goûte. Donc
pas de recette au silagite
Non, pas encore.
À 9h54 sur RTS Première, on a reçu un message au 076 206 12 12. Le voici.
Oui, bonjour. Je m'appelle Nadia. Je suis en train d'écouter... l'émission On en parle, je vous félicite, c'est vraiment super, il y a beaucoup de respect et en même temps on apprend beaucoup beaucoup de choses et je trouve vraiment, ouais, chapeau, je ne peux pas vous dire mieux. Et j'ai une question concernant, et puis surtout qu'on aborde les femmes, hein, pas seulement les hommes et leur puissance, mais pour nous aussi. Et donc, pour revenir au jus de grenade, est-ce qu'il faut la grenade en tant que fruit, et puis vous parlez d'un appareil spécial pour avec les grains pour pouvoir faire du jus vraiment, ou le jus de grenade qu'on peut trouver dans les magasins, est-ce qu'il est assez pur, ou parce que vous parlez de 2 décilitres hein, pour un homme, pour pouvoir le requinquer, on va dire, en plus ou moins en 3 semaines. Donc, voilà, c'est ça que je voudrais savoir, parce qu'autrement, ben, les grenades, on n'en trouve pas toute l'année non plus. Hein. Donc, voilà, c'est ça que je voulais savoir. En tout cas, bravo, bravo. Moi, je suis ravie. Merci. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.
Nadia, merci beaucoup pour votre message. Je me tourne vers Kurt Ostetmann, pharmacologue. Bien choisir sa grenade.
Oui, il faut bien choisir la grenade, des grenades qui sont déjà bien rouges, qui donneront plus de jus. Et puis, il faut évidemment, on peut pas prendre un presse-citron pour écraser ces graines de grenade. Mais c'est très facile, on peut trouver pour une 50aine de francs des petites presses, enfin, qui permettent de presser. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. On trouve aussi en pharmacie, en droguerie, dans les grandes surfaces, on trouve du jus de grenade. Mais si vous regardez l'étiquette, il y a souvent du jus de pomme avec ou n'importe quoi, du jus de grenade pur, 100% pur, je l'ai jamais vu encore dans un magasin. Donc il faut aller acheter vos grenades et puis
on peut aussi acheter les grains de grenade. Alors c'est plus cher forcément, mais il y a des
de toute façon, il faut les presser, faut presser. Et puis il faut à peu près 3 grenades pour un déci de jus.
Ouais. Donc c'est quand même une grosse expédition.
C'est une grosse expédition.
On quand même avoir du stock.
Mais on peut aussi le trouver, je veux faire de la réclame, au marché de Martigny, à un stand, un jeune ivoirien. Et puis il a une presse-grenade, enfin, et les gens achètent ça, enfin, dans la rue. Et le même ivoirien, il est au marché de Sion le vendredi, et puis à Martigny le jeudi. Puis certainement, chaque semaine dans un marché, mais je sais pas où, il a des grenades magnifiques, un jus délicieux.
Il faut lui dire qu'il a peut-être un filon entrepreneurial à suivre ces prochains temps. On a parlé de ce qui était aphrodisiaque depuis
le début
de l'émission.
On a une liste phénoménale, mais il y a probablement aussi des trucs qui ne marchent pas du tout, alors qu'il faut éviter.
Oui, alors qu'ils sont même anaphrodisiaques, Kurt Ostetmann. Si on veut, par exemple, avoir la paix ce soir et tout le week-end, si on veut rester tranquille, en pantoufles et training douteux sur le canapé, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui est anaphrodisiaque?
Il y a deux produits vraiment qui sont anaphrodisiaques. C'est tout d'abord le gâteau. Le poivre des moines.
Le poivre des moines.
Le poivre des moines. Les moines devaient manger des graines de ce poivre, un peu le goût de poivre, et vraiment c'est anaphrodisiaque, c'est fini pour l'homme. Enfin, là, il est calme pendant des jours. Ça, c'est clair. Puis juste intéressant, le Gatillier a donné des médicaments pour la femme, les femmes qui ont des problèmes de menstruation. Le syndrome prémenstruel, ça marche très très bien. Et puis sinon, plus facile que le Gatillier, c'est la laitue. La laitue tue l'amour.
La laitue romaine.
Hein. Il y a beaucoup de laitues. La laitue romaine, celle qui est un peu allongée comme ça, ça tue l'amour. Et déjà les Égyptiens le disaient, les Grecs le disaient aussi. Et actuellement, pour la preuve, il y a des études qui ont été faites. Quand on mange beaucoup de laitue, on a plus d'érection chez les hommes, c'est clair.
Fini.
Et net. Bah, ça revient quand on arrête de manger de la laitue. Ça revient heureusement. Et pour la preuve, c'est qu'une firme suisse, dont je ne dirai pas le nom, a mis sur le marché l'année passée un complément alimentaire à base de laitue pour l'endormissement.
Ah ouais.
Donc ça fait dormir. Donc ça c'est la preuve absolue, enfin que ça marche très bien.
Merci beaucoup pour tous ces conseils précieux. On a pris beaucoup de notes pendant cette émission. Merci à vous, Jérôme Binder. Vous êtes le fondateur et le patron de Parfums d'Épices à Crissier. Vous organisez un atelier spécial Saint-Valentin ce soir. Merci beaucoup aussi à vous, Kurt Ostetmann. Vous êtes pharmacologue et vous publiez le 4 mars prochain un livre dont vous me dites très vite le titre.
Des plantes contre la fatigue, contre toutes les fatigues, y compris la fatigue sexuelle.
Publication le 4 mars chez Favre. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous les deux.